I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Positron. C'est un épisode un petit peu spécial puisque on va revenir à l'amour qui nous lie tous, c'est-à-dire les super-héros. Et c'est un truc qui n'est pas vraiment un épisode où on va recommander quelque chose, mais où on va juste parler d'un truc qu'on a plutôt bien aimé, à savoir Avengers Endgame. Et j'ai le plaisir de retrouver le co-animateur qui avait fait ça avec moi l'année dernière, le 1er mai, je crois, donc il y a tout juste un an, pour une version avec spoilers de Infinity War à l'époque. C'est Cédric Bonnet. Comment ça va, Cédric?
Bah, écoute bien, et toi?
T'es en forme?
J'avais oublié que l'année dernière, on l'avait déjà fait ensemble.
Mais ouais, t'es mon partenaire d'Avengers. Alors, on diffuse aussi en live sur Studio Renegade, donc cet épisode est un petit peu une coproduction Patrick Béja, Studio Renegade. Donc, je vais quand même prévenir pour les gens qui nous écoutent en podcast et pour les gens qui nous regardent en live, on va faire une petite partie sans spoiler au début, et puis après, on va partir dans les spoilers. Je vais quand même...
Du coup, j'enlève le bandeau et quand on... Hop, je reviens.
Tu peux. Mais je voudrais quand même recommander aux gens qui n'ont pas vu le film de quand même rien écouter. Parce que c'est l'un des plaisirs, en tout cas pour moi, de ce type d'expérience, c'est d'y aller complètement vierge et de pas du tout savoir, s'attendre à rien du tout, ni en bien ni en mal, et de découvrir. Donc je vous recommanderais, même si on va faire la partie sans spoiler, pour laquelle vous pourriez rester si vous le souhaitiez, de ne pas l'écouter. Donc allez voir le film et puis revenez ensuite, ça sera mieux. Mais bon, si vous y tenez... On vous fera un gros... on vous préviendra bien avant de se lancer dans la partie spoiler. Est-ce que ça te convient?
Parfait. C'est parfait.
Super. Alors, donc, on va commencer avec, comme je le disais, une partie sans spoiler, qui va plutôt être, je crois, qui va rester assez générale. Pour donner un petit peu le contexte, toi, Cédric, je crois que tu as vu le film hier, on enregistre lundi 29, ouais. Et tu l'as vu une fois hier.
Et c'est ça, je l'ai vu une fois hier.
Donc c'est encore très frais dans ton esprit.
Ah oui, oui, complètement. Je l'ai même, pour te dire, je me suis couché sur le film. J'ai vu le film, je me suis couché, je me suis levé, j'ai fait la matinale juste avant, et là je suis dans Positron. Donc c'est
d'accord,
très frais.
Donc en fait tu l'as vu il y a une heure et demie. Quoi,
une heure et demie, quoi, c'est ça.
C'est ça. Pour ma part, pour que les gens comprennent bien dans quel contexte j'en parle...
Oh, c'est la 10e fois maintenant, non?
Alors on n'est pas loin, c'est la 3e fois, c'est-à-dire, enfin je l'ai vu 3 fois, il est sorti mercredi, je l'ai vu mercredi, vendredi et dimanche. Je dois dire que, bon, là, 3 fois en 6 jours, je commence à être assasié un petit peu. Je vais être bon pour, allez, quelques mois. Mais ça vous montre à quel point j'ai aimé le film. Et pour partir dans nos impressions, au-delà du film, le MCU dans son ensemble, qui, en plus d'avoir été l'une de mes choses préférées dans le monde du cinéma, mais pas que, jusqu'à maintenant, je trouve, gagne encore plus en majesté et en saveur avec ce film qui amène une conclusion satisfaisante, ce qui n'était pas facile du tout. Je vais en parler beaucoup plus longtemps, même dans la partie non-spoiler, mais je voudrais aussi savoir ce que toi, tu en as pensé. Tu es un fan des comics, un petit peu comme moi, et du MCU, je crois, mais qu'est-ce que tu as pensé de ce film?
Écoute, c'est pas exempt de défauts. Mais de manière générale, c'est comme ça qu'il fallait conclure. Enfin, je pense que je vois pas trop comment on aurait pu conclure autrement. Et je trouve que c'est une réussite globale quand même. Après, c'est Je suis un peu critique quand même, parce que voilà, je...
On peut en parler dans les parties spoilers de ce, que, voilà, ce qu'on n'a pas aimé, de ce avec quoi on a des problèmes.
Mais c'était... après, c'est la fin. Ouais, c'est une fin tout à fait logique et dans l'ensemble, je trouve que ça a conclu très bien, en fait. Voilà.
Ouais, moi, j'irais encore plus loin que toi et peut-être même beaucoup plus loin que toi. Je trouve que c'est
une réussite, hommage, en fait.
Mais au-delà de l'hommage, c'est une réussite qui est invraisemblable.
Carrément. Parce que
mais c'était une tâche impossible à réussir. Il était hyper difficile de donner quelque chose qui conclut de manière satisfaisante cette première saga, cette première époque du MCU, qui fasse plaisir aux fans, qui soit cohérente avec le reste de l'univers. Et ils réussissent à faire tout ça en faisant un bon film qui va émouvoir, faire rire, être plein d'action et faire pousser des cris aux fans. Et ils réussissent. Alors, je suis complètement d'accord. Il y a effectivement le film n'est pas parfait. Il y a des problèmes et on pourra en parler dans la partie spoiler. Il n'est pas parfait, mais pour moi, je crois qu'on a... Peut-être un petit peu plus en France qu'ailleurs, on a tendance à se laisser, comment dire, se laisser alourdir par les défauts et du coup on boude un peu son plaisir. Moi, je suis dans l'optique complètement inverse. Je me suis tellement laissé emporter par le truc que à aucun moment les défauts dont je suis conscient ne réussissent à me faire bouder mon plaisir et j'atteins un niveau d'exaltation maximum que les défauts n'arrivent pas à faire descendre. Pour le film et en plus pour l'ensemble du MCU qui est alors on dit rien de neuf, hein, y a plein de gens qui ont déjà dit ce genre de choses, mais qui est hyper sous-estimé, je trouve, par des gens qui considèrent que déjà, c'est un achievement, c'est un accomplissement qui ne s'est jamais vu dans l'histoire du cinéma. Ces 22 films sur 10 ans, c'est invraisemblable et la cohérence qu'ils ont réussi à garder, le niveau de qualité qu'ils ont réussi à garder pour, on va dire, les trois quarts des films. Qui est vraiment fou. Et puis cette histoire, l'ambition narrative de cette histoire, moi, ce à quoi ça me fait penser, et je te redonne la parole juste après, ça me fait penser, les gens qui critiquent un petit peu les films, ça me fait penser aux Trois Mousquetaires. Et à l'idée que les gens devaient avoir à l'époque où le livre sortait en feuilleton dans des journaux toutes les semaines et qui était considéré comme quelque chose de super pas noble. Et évidemment, aujourd'hui, les Trois Mousquetaires et Dumas, c'est un peu l'un des trésors de la littérature française. Et je suis sûr que les gens qui regardent le MCU aujourd'hui avec ce regard un petit peu c'est pas noble, c'est pas du vrai cinéma machin, aurait eu à l'époque, s'ils avaient vécu à l'époque, le même type de regard sur les Trois Mousquetaires. Oui, et pour moi c'est quelque chose de, c'est aussi satisfaisant que c'était impossible à imaginer à l'époque où moi je lisais les comics il y a
c'est une œuvre majeure.
C'est une œuvre majeure de la pop culture, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de philosophique, de profond, de machin.
Oui, pas du tout même.
Mais encore que, franchement, il y a des personnages qui ont un parcours hyper profond. Il y a des choses, des thèmes qui sont abordés qui sont intéressants, au même titre que les Trois Mousquetaires, si tu veux. Ce que je dis dans mon... J'ai fait une série de tweets que je répète un petit peu ici, c'est que la pop culture, ça a toujours été, et c'est son rôle, raconter des histoires qui vont nous parler avec une imagerie un petit peu fantastique. Et c'est exactement ce qu'ils font. Moi, je trouve que je pourrais te sortir des dizaines de citations des films qui sont vraiment... peut-être de la philosophie de comptoir, mais qui sont de la philosophie autant que certains films sérieux, entre guillemets, qu'on porte au nu, alors que, pas tous, hein, bien sûr, mais... Donc voilà, pour moi, il y a un vrai... Et les films du MCU, dans leur ensemble, il y en a 4 ou 5 qui sont vraiment pas super. Je prends l'exemple de Iron Man 2, Thor 2, Guardians of the Galaxy 2, que j'aime pas, il y a beaucoup de gens qui l'aiment, mais... Je suis pas aveugle sur les qualités et les défauts du truc, mais dans l'ensemble, c'est incroyable. Personne n'est parfait, rien n'est parfait. Mais cette conclusion et le fait que ça soit une réussite et que tout est tenu, pour moi, on a vécu un truc qui est unique et que peut-être on ne revivra jamais.
Au cinéma, oui, tout à fait. Mais ce qui est impressionnant, effectivement, comme tu dis, c'est la continuité générale. C'est, même si assez souvent, dans certains films, on était très frustrés de pas voir ou de peu voir le lien avec les autres films du MCU. On le voyait via des scènes à la fin du film, les fameuses scènes post-génériques et ce genre de trucs. Il y a beaucoup de films qui étaient vraiment ultra indépendants les uns des autres. On ne comprenait pas trop le rapprochement entre eux. Et par moments, certains se disaient, c'est dommage que, alors que ça se passe au même moment et pas très loin, on n'est pas, je sais pas moi, un personnage qui apparaît ou un machin. Mmh. Il y a eu des films qui ont vraiment joué sur ça. Quand on voit le Civil War, par exemple, pour le coup, c'était difficile de passer à côté des autres personnages du MCU. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui se passent très loin, comme le premier Gardien de la Galaxie. On voit pas du tout le rapport avec la choucroute et on imagine très mal comment ces personnages-là peuvent évoluer avec les autres dans un Avengers éventuel, tu vois. Donc c'est ce qui est impressionnant, c'est surtout qu'à la fin, ben, tout s'imbrique plutôt bien.
Ouais.
Et qu'on arrive à voir un truc cohérent. À aucun moment tu te dis mais what the fuck, pourquoi lui il est à tel endroit avec telle personne et pourquoi, enfin c'est des gens, tu te dis jamais on pourrait imaginer qu'ils puissent se côtoyer. Quand tu vois un Thor dans le premier Thor et tu vois un Iron Man dans le premier Iron Man, on est tellement loin de la magie et tout ça dans un Iron Man. Et j'étais le premier très critique parce que moi, ce que j'aimais beaucoup, quand le premier Iron Man est sorti, je trouvais qu'il était même dans l'idée des films qui faisaient un tabac à l'époque, qui étaient les premiers Batman de Nolan, qui étaient ancrés dans le réel, tu vois, vraiment dans un truc très réel. Et le premier Iron Man, il est ultra dans le réel. Il y a la technologie qui explique les choses un peu fantastiques, de, tu vois, la fameuse science dans science-fiction, tu vois, qui explique un peu pourquoi ce personnage...
Mais c'était bien à l'époque, c'était très début, bien. Quoi.
Sauf que quand on voit Captain America, on se dit ça passe encore. Thor, on se disait oulala, attention, un mec qui la foudre, machin, tout ça. Il y avait aucune explication, mais en fait c'était un extraterrestre, tout ça. Dans les comics, ça passe, mais au cinéma, tu te dis comment ces gens-là vont pouvoir se retrouver dans un même film, déjà à l'époque du premier Avengers. Et finalement, ça devenait cohérent. Et j'étais le premier à dire moi, tout ce qui est magie, tout ça, dans ce genre de film de super-héros, ça ne m'intéresse pas. Et pourtant, ça m'a happé.
Ouais.
Et la façon dont c'était amené, dont c'était expliqué et dont les choses se sont imbriquées, eh ben, je trouvais que ça marchait super bien, quoi.
Et, donc, et au voilà, final, ça fonctionne jusqu'au bout. Et c'est ça qui est fou, c'est que...
C'est
ils réussissent à faire accepter ma femme qui a jamais lu de comics de sa vie et qui était hyper sceptique quand je lui ai montré les premiers films en 2012. Bon. Elle est venue le voir une deuxième fois avec moi et elle était hyper excitée. Et c'est aussi pour ça que pour moi...
Que
le
c'est
fait
ta femme.
De...
Non, pardon.
Aussi, oui, bien sûr. Mais le fait que tu vois, bien sûr qu'on peut critiquer, il y a des gens qui disent « Ah, il y a une formule Marvel que j'aime pas trop.
Ouais, »
Et
ouais.
Alors, la formule, c'est quoi en fait? La formule, c'est il y a de l'humour et de l'action et c'est des bons films. Et ok, ça, ok, c'est une formule, mais à part ça, je vois pas la formule. Les films, si on les regarde, ils sont tellement différents les uns des autres. Il y a des comédies, des films de casse, genre de heist.
Ouais.
Il y a des grandes épopées épiques. Il y a des films de science-fiction, des space opéras, enfin, il y a des trucs, il y a le film de genre comédie romantique d'ado, pas comédie romantique, mais film d'ado genre John Hughes d'ado, à la ouais. limite. Et oui, c'est tous des films qui sont cohérents dans le même univers et ils tiennent d'un film sur l'autre. Mais la formule, j'ai l'impression que c'est vrai qu'il y a certains éléments importants dans ces films, mais j'ai l'impression que les gens se basent sur genre la phase 1 et peut-être la moitié de la phase 2.
Ouais.
Et après, ça s'est étendu. Et moi, la relation que j'ai à cet univers aujourd'hui est très différente de celle que j'avais jusqu'au film de Whedon, le premier Avengers, que j'ai adoré. Ouais. Mais on n'est plus dans la même cour, quoi. On ne joue plus dans la même cour.
Non, donc, clairement, on a changé de dimension, que ce soit les personnages, mais même le spectacle de manière générale. Enfin, on est,
ouais. Et la manière dont sont pensés les films. Quoi.
C'est ça. Dont sont pensés les films. Il y avait beaucoup moins d'origin story. Il y avait. Enfin, les choses. C'est vrai qu'on a eu pas mal d'origin story pour plein de personnages. Il y en a d'autres.
Mais...
Oui, il y en a d'autres. C'est plus de la présentation. On prend un personnage à un instant T, mais on raconte pas forcément ce qui s'est passé avant. Ouais. On regarde plutôt son évolution sur une période de sa vie qui, justement, va changer peut-être les choses pour le MCU. Et voilà, quoi.
Mais même Captain Marvel, qui est un film qui n'est pas... qui est pas le meilleur, moi que je trouve pas mal, non. Mais bon, c'est pas, il est pas dans la dans le top de la liste. La manière dont il gère justement cette origin story sans que ça soit une origin story,
ouais, origin story, ouais, c'est, pas
c'est hyper intelligemment écrit, quoi. Il y a
certains
éléments.
Il passe un truc dans sa vie et
mais narrativement, structurellement, voilà. Il y a peut-être des gens qui l'ont pas vu, donc on va pas le spoiler, non. Mais structurellement, c'est une structure qui est cinématographiquement intéressante. Et il y a plein de trucs d'une intelligence folle. Et c'est pour ça que moi, les gens qui s'arrêtent aux petites critiques, et je crois qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup, il y a des gens qui notent les critiques, mais on ne va pas dire qu'il y a... Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui s'arrêtent aux critiques et disent « Ah ben non, du coup, j'aime pas. » Mais pour moi, ce que réussit cet univers et ce film, parce qu'on va revenir à Endgame, ce que réussit cet univers et ce film sont tellement plus importants et plus majestueux, c'est un terme que j'emploie depuis quelques jours, et plus impressionnants que les problèmes réels qu'on peut noter, qui sont vraiment des détails pour moi, que le fait de s'arrêter à ces problèmes est presque... C'est pour ça que je parle de bouder son plaisir. C'est genre...
Des peines à jouir, quoi.
Ouais, un petit peu, c'est un petit peu ça. C'est genre, OK, c'est vrai, il y a ces problèmes, mais le reste est tellement impressionnant, voilà, ça a presque pas d'importance, quoi.
C'est ça, ceux qui voient le verre à moitié vide et ceux qui voient le verre à moitié plein, ouais. Finalement.
Donc bon, voilà... Pour la partie sans spoiler, je te propose qu'on passe dans notre partie spoiler avec les choses qu'on n'a pas aimées d'abord. Tu remets le petit bandeau sur notre, sur notre live.
Je l'ai fait clignoter et j'ai mis le bandeau.
Très bien. Donc, si vous n'avez pas suivi mon conseil en début d'épisode, maintenant, je vous encourage très, très, très chaleureusement à arrêter d'écouter si vous n'avez pas encore vu le film. Je dirais même que si vous avez vu... que quelques films du MCU, allez tous les voir et puis revenez ensuite. Il y en a que 22, ça va vite. Hein. C'est, je crois, 48 heures non-stop. C'est 3000 minutes à peu près. Ça
c'est
passe
rien.
Vite. C'est rien du tout. C'est autant qu'on aime les films du MCU, c'est 3000, tu vois. Et donc, on va passer dans la partie spoiler dans 3, 2, 1, dernière chance. Ça y est, c'est parti. Donc, les choses... qu'on a peut-être avec lesquels, ce dont je parlais juste maintenant, les choses qui nous ont moins plu, et puis les choses qui nous ont plus plu après, je pense que ça sera la partie la plus importante. Qu'est-ce qui t'a pas plu dans ce film, toi, Cédric ?
Moi, ce qui m'a pas plu, c'est que par moment... En fait, ça m'a pas plu, en même temps, ça m'a plu. C'est-à-dire que il y a plein de moments où on a senti que ce film étant le dernier d'une ère, on se retrouvait avec des clins d'œil aux fans ou aux critiques qui ont été faites au studio Marvel et tout ça, qui ont été largement exagérées dans le truc. En même temps, c'était rigolo. En même temps, au bout d'un moment, ça devient un peu lourd.
Tu quand parles de la partie où on voit toutes les femmes.
Alors celui-ci, c'est genre, regardez comment on se fait pardonner de ne pas avoir fait de film avec des héroïnes fortes pendant presque 10 ans, à part un ou deux films. Voilà, merci beaucoup. Donc voilà, il y avait ça. Ouais.
C'est vrai
ça
que juste
beaucoup.
Pour commenter, je suis d'accord avec toi, mais juste pour commenter sur ce point, et puis on n'y reviendra plus, parce qu'en plus on n'est pas forcément qualifié, mais je suis d'accord, c'est vraiment, ça fait artificiel, et il y a plein de gens qui ont dit que c'était un peu checklisty, machin, et que c'est hyper artificiel. Je suis d'accord, il y a une autre lecture aussi qui est, il y a Captain Marvel qui fait face à une armée de trolls, et toutes les autres viennent ses côtés pour dire on va défendre. Et c'est vrai que quand tu le penses comme ça, et quand tu revois les images, il y a vraiment une armée de l'armée de Thanos qui est genre une armée de trolls. Ouais. On pourrait presque dire que c'est une armée d'orques d'un film de fantasy. Et il défonce tout. Et c'est frustrant parce que Captain Marvel, c'est le personnage dans l'univers de Marvel qui n'a pas besoin d'aide, quoi. Donc, je comprends. Ça. Et ça fait artificiel. Et ça fait... Mais bon, moi, ça ne m'a pas gêné plus que ça. La première fois, je ne l'ai même pas vu. Mais je comprends la critique, ouais.
Voilà, okay. y a ça. Et le traitement de Thor, on va dire sa mise en forme physique, qui a souvent été une critique où on disait il passe son temps torse nu dans tous les films pour montrer ses machins et tout ça, en fait, ses abdos et ses trucs. On peut pas s'identifier à un personnage comme ça, nous les geeks bedonnants qui passent leur journée à jouer aux jeux vidéo. Et bien en fait, il y avait une espèce de caricature du personnage quand on voit Fortnite et tout ça au début, et le comportement même du personnage qui fait vraiment, tu sais, dans l'image, dans l'imagerie globale du geek bedonnant qui joue aux jeux vidéo, qui n'est plus la nôtre aujourd'hui, tu vois, mais qui pouvait très bien être celle du grand public. Ça, je sais pas, il y a un truc qui m'a, au début quand j'ai vu, j'ai souri. Après, je me suis dit...
Bah, il force le trait, quoi, disons.
C'est, ouais, c'est mais, genre, c'est bon, on a compris, tout ça.
C'est vrai, mais c'est marrant parce que... Peut-être parce que toi, t'as eu des problèmes de poids dans ta lointaine jeunesse. Maintenant, t'es un Adonis, mais... Mais c'est marrant, moi, ça m'a pas... Il y a des gens qui ont parlé, d'ailleurs, de fat-shaming et de trucs comme ça. Moi, ça m'a pas du tout... Ni l'aspect geek, ni l'aspect fat-shaming ne m'ont
non, mais le truc,
touché,
c'est,
parce
c'est,
que...
Le truc, c'est, en gros, l'opposé du beau gosse tel qu'on imagine Thor... C'est le gros geek bedonnant qui joue aux jeux vidéo.
Ah mais moi j'ai pas vu l'aspect geek du tout. J'ai juste vu que tu vois
il joue
aux
jeux vidéo.
Oui mais
voilà,
franchement c'est pas l'univers Marvel qui va.
Non bien sûr mais ils passent leur journée à, comme tu l'imagines, ils passent leur journée à jouer aux jeux vidéo, à boire des bières et.
Ouais mais et enfin je sais pas, voilà. Tu vois ils sont pas en train de se moquer des gens qui boivent de la bière, tu vois, c'est pas
non.
Faut vraiment être hyper sensible, moi je trouve. Et tu sais, autant moi je suis je dis jamais le genre de truc comme « mais on peut plus rien dire » parce que je sais que c'est un argument qui est utilisé par des gens qui sont souvent racistes, sexistes, anti-tout, réactionnaires, etc. pour dire
le politiquement correct.
C'est ça. Mais là, vraiment, pour cette histoire, oui, moi j'ai trouvé ça. Disons qu'ils ont forcé le trait parce que j'ai trouvé qu'ils faisaient de Thor un personnage un peu trop ridicule.
Oui.
Pour moi, et que cette tendance Taika Waititi m'a pas énormément plu dans Thor Ragnarok, même si bon, au final, ça passe. Mais le fait que ça soit genre du fat shaming ou je sais pas quoi, ou du geek shaming,
c'est pas tellement comme ça. C'est pas forcément du shaming, mais c'est en gros opposé.
Caricature, trop caricature.
Ouais, opposé deux caricatures en fait. En même temps, si tu veux, je me suis pas senti offensé ou quoi que ce soit. J'ai trouvé ça même plus trop drôle. Mais c'est juste que je me suis dit, en gros, l'opposition entre le beau gosse musclé et machin, c'est, enfin, il y a pas de juste milieu, il y a pas de, je sais pas. Après, évidemment, tout est dans l'exagération parce qu'on est dans l'humour, machin et tout ça. Dans les faits, c'est pas très dérangeant. Mais en même temps, c'était une occasion aussi pour les mecs qui sont justement pas musclés machin, qui vont avec leur copine au cinéma, dire bah tu vois.
Oui, bah disons qu'il n'est pas tellement mis en valeur. Mais
voilà,
je trouve que
ça, finalement.
Je trouve qu'au final,
dans ce film. Hein.
mais le truc c'est que je trouve qu'il est au bout du compte. Quand il redevient Thor worthy,
il est
quand même gros, il a quand même sa barbe dégueulasse, tu vois, et ça montre que le problème n'était pas qu'il était. Le problème, c'est pas qu'il était gros. Le problème, c'est qu'il était en PTSD, tu vois, en syndrome de stress post-traumatique complet. Quand tu vois le parcours du personnage, et c'est là que c'est hyper intéressant quand je dis les personnages ont un développement personnel qui est aussi important que dans beaucoup d'autres films et plus que dans de nombreux autres films. Thor, c'est un personnage qui a perdu petit à petit tout ce qui lui était cher et tout ce qui faisait son identité. Et jusqu'au bout, tu vois, il a perdu ses parents, sa famille, ses amis, son peuple. Il a failli à ses responsabilités. Et jusqu'au bout, là où il pouvait, dans Infinity War, save the day, il a raté son coup parce qu'il était trop imbu de sa personne. Tu vois, il disait « c'est moi qui vais le tuer ». Et il a tout perdu. C'est un personnage qui est détruit. Et l'aspect physique, c'est une manifestation pour moi de son aspect psychologique. Et je suis désolé, quand on se laisse aller, qu'on fait plus sport, qu'on boit de la bière et effectivement qu'on reste devant la télé, que ce soit des jeux vidéo ou du téléachat,
on finit par ressembler à Thor.
C'est ça.
Enfin, là, si on dit ça aux gens, ils vont tous arrêter de ressembler à Thor.
Donc, moi, je trouve autant l'aspect toutes les femmes ensemble, ça fait artificiel, je le comprends et je peux comprendre qu'on voit ça comme ça. Là, ma réaction, c'est Ah non, c'est bon, là quand même, faut, ah, je ne vois dis, pas du tout comme ça.
Ça fait partie
quoi.
Des polémiques mais... du truc aussi. Donc voilà. Mmh. Et bon, et puis après, y a forcément, il y a des morts dans ce film. Bon, en fait, il y a un truc qui m'a un peu perturbé aussi, c'est, et qui a beaucoup perturbé Valérie quand on regardait le film, elle dit, mais, et Vision dans l'histoire. Parce que
Vision, il est mort, il est pas là.
Eh oui, mais non, mais bien sûr, il est mort, il est pas là. Mais quand on sait quand même tout le film est basé sur une histoire de paradoxe temporel, de remonter dans le temps, de régler le problème, de replacer les pierres là où elles étaient et ainsi de suite. Normalement, Vision devrait exister, puisque
alors. Ouais.
Voilà, tu vois.
Là, on part sur le gros problème de nerd geek que nous sommes, voilà. De fans de comics du film. C'est les problèmes des paradoxes temporels. Et là, mais il n'y a pas que Vision, il y a énormément de problèmes. Il y a le fait que Thanos est mort dans en 2014, il est parti et il est parvenu parce qu'il est mort. Il y a le fait que Cap, comment il fait pour revenir dans cette timeline s'il a replacé. Et, ah oui, non mais ça, je suis d'accord, il y a mille problèmes. Et d'autant plus frustrant que... Genre, Hulk les explique et The Ancient One les explique aussi. Mais au final, j'ai l'impression que personne ne comprend rien. Et peut-être même les auteurs du script, ils ne sont pas sûrs d'avoir compris eux-mêmes comment fonctionne leur logique interne de time travel, de voyage dans le temps. Mais...
Non, ça ne me pique pas ma critique. Je te dis que c'est surtout toi qui l'as noté, d'ailleurs. Mais en même temps, on sait qu'il va y avoir une série Disney+, hein, qui va s'appeler Scarlet Witch et Vision. Mm-hmm. Donc, y a de fortes chances qu'en fait, Vision soit quelque part.
Bah, le truc, c'est que il y a plein d'univers parallèles, du coup, maintenant, peut-être. Ou alors, peut-être que... tiens, j'ai une théorie. Ah, qui est en fait la théorie de ma femme. Si...
À toi aussi, tu voles les critiques de ta femme.
Exactement. Non, mais en fait, c'est une théorie qui pourrait tout arranger. Ah. Si Captain America est reparti mettre toutes les pierres là où il fallait... Et qu'il a réussi à trouver Loki, parce que Loki a disparu avec le Tesseract. Oui. Il réussit à retrouver Loki, à le ramener à, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas, utiliser la Mind Stone pour lui effacer l'esprit et le remettre dans la timeline. Et, attention là c'est gros, et que Tony Stark a claqué des doigts et en fait a fait disparaître Thanos et toutes ses armées pour les replacer dans la timeline sans qu'ils se souviennent de rien. Et bien là, on a une seule timeline et zéro univers parallèle. Et donc, Captain America, qui était en fait le mari de Peggy Carter, dont on sait qu'elle était mariée, mais que, tu vois, et ben il a juste vécu, vieilli normalement. Et là, il est venu marcher, tu vois, et il s'est assis sur le banc et il savait ce qui se passait derrière lui. Donc, bon, je pense pas que ça soit le cas. Hein. Je pense pas que ça soit le cas. Mais...
Écoute, je vais dans ma DeLorean et je vais vérifier ça tout de suite.
Ouais, je suis d'accord. C'est les problèmes de paradoxe temporel. Et il y a plein de vidéos sur YouTube qui commencent à apparaître pour essayer d'expliquer les différentes timelines. Et genre, il y a une théorie que j'aime bien, c'est que chaque voyage dans le temps crée un univers parallèle.
Un univers, ouais.
Mais bon. Là encore, je suis d'accord. Il y a d'ailleurs un bon ami sur le Slack des Patriotes du Rendez-vous Tech est très, très, très gêné par le fait que le rat sorte Scott Lang de son Quantum Realm. Et c'est marrant, moi, ça me gêne pas du tout parce que d'abord, les auteurs, les gens qui ont écrit le script auraient pu faire autre chose. C'était pas tellement gênant. Mais surtout... ça fait partie des 14 millions de possibilités, tu vois. Ça se trouve, il y a un demi-million de possibilités où tout se passe de la même manière, mais le rat, il marche à côté, il appuie pas sur les bons boutons. Et c'est genre cette possibilité avec même ce hasard qui fait partie de ce qu'avait vu Doctor Strange. Donc, moi, ça me gêne, moi.
Eh oui. Mais bon, voilà, écoute...
C'est les trucs que t'aimes un peu moins.
Trois trucs qui, à première vision en tout cas, comme... comment dire. Moi, c'est l'ami gêné par le rat, dit Johan. Ah, c'est moi l'ami gêné par le rat.
Oui, c'est Johan voilà. Qui est dans la chatroom, c'est voilà. Ça
Oui, c'est ouais, ça.
C'est ça, c'est Johan.
Ouais, après, il y a plein d'événements comme ça, mais comme dans tous ces films, il se passe des choses, je dis, ah, comme par hasard, où évidemment il fallait que le rat passe à cet endroit-là, à ce moment-là, et appuie sur le bouton.
Mais là, c'est justifié par le fait qu'il y ait 14 millions de possibilités, plus ou moins, tu vois. Et d'ailleurs, je voudrais dire, on en parlait avec Johan, puisqu'il se mentionne lui-même, et il me disait, moi, je m'attendais à ce que Scott Lang trouve un truc incroyable pour sortir du Quantum Realm. Et moi, n'ayant pas vu même le trailer, qui est pas mal fait parce qu'il dit presque rien, n'ayant pas vu le trailer de Endgame, et je recommande aux gens vraiment de ne jamais regarder les trailers pour quasiment rien si vous êtes très excité par un film, parce que c'est une expérience vraiment plus satisfaisante, en tout cas pour moi, de voir les films sans avoir vu les trailers. Et donc, je savais même pas qu'il allait revenir dans le film. Moi, je croyais qu'il était coincé dans le Quantum Realm et qu'on le voyait pas du tout du film. Donc, je m'attendais pas à ce qu'il fasse un truc incroyable pour en sortir. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que moi, ça m'a moins frustré. Mais...
Ok, ok, je vois l'idée. On a suivi la bonne possibilité, Discan. Ouais. Autrement, on aurait une fin toute pourrie.
C'est ça, exactement. Autrement, c'est un univers où, si Scott Lang ne sort pas... Et justement, c'est une bonne transition pour commencer à parler des choses qu'on aime bien. Et moi, ce que je vais dire, c'est que ce que j'aime bien, c'est tout. Même les trucs... En fait, c'est comme quand tu trouves l'amour de ta vie. Même les défauts, tu les aimes. Et donc, dans ce film...
C'est exactement ça.
Voilà. Même les défauts, je les aime bien. Donc, j'aime tout dans ce film. Mais le fait qu'ils aient réussi à ramener Ant-Man, qui est l'un des membres fondateurs des Avengers, et de lui donner un rôle tellement important dans ce film, un rôle complètement pivot dans le film, c'est un truc que mon cœur de geek avec lequel mon cœur de geek a vibré, quoi, parce que c'était, jusqu'à maintenant, il était un petit peu le mec qui fait la blague à côté, on s'en fout et on se moque de lui.
C'est le sidekick rigolo.
C'est ça. Et là, il est, donc c'est l'un des trucs que j'ai plu, mais qui m'a plu, mais je crois que pour dire tous les trucs qui m'ont plu, il faudrait regarder tout le film. Je vais quand même en parler un petit peu, mais avant, je vais
plan par plan. Il faudrait que tu fasses un commentaire.
Exactement. Ouais. Mais tu sais que j'y ai pensé en plus. Mais
Ça va durer 6 heures du coup, hein, puisque 3 heures de film. Plus,
non, mais pour tous les films. Pour tous les films.
Ouh là là. Oui. Tu vas lancer un nouveau podcast qui s'appellerait. En plus, un truc qui serait à faire, ça serait plutôt que pour pas avoir de problème de droit. C'est que tu dises, bon, top, vous lancez le film en même
temps
que moi.
Mais c'est ça, bien sûr, c'est ça que j'ai pensé.
Donc toi, tu fais ton commentaire machin, tu dis, alors là, faites pause, donc les gens font pause, et tu commentes le machin, tout ça.
Ou même pas avec pause, juste en commentant, enfin peut-être qu'il faudrait mettre pause, mais c'est comme, comment il s'appelle, Magic Theater 3000 en anglais.
Ah oui, oui.
Mais bon. Oui, mais j'ai pensé à faire ça avec tous les films du MCU, mais bon, bref, j'ai déjà pas le temps de faire plein de choses.
Après, tu vois, dans la série, les personnages qui ont été un peu maltraités dans les films du passé et qui ont un rôle important, Hawkeye, c'est pareil, quoi. C'est un personnage qui rappelez-vous, dans le tout le monde s'était foutu de ce personnage dans le premier Avengers, quand il lançait des flèches depuis le tour d'un immeuble. Finalement, il servait pas à grand-chose.
C'est vrai.
Disait ça, hein.
Mais et en plus, il passe la moitié du film contrôlé par le.
Contrôlé par. Exactement. Et,
moins important que Scott Lang, mais il est assez cool. Et tu sais qu'il va avoir sa série, Hawkeye. Donc,
Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est pas étonnant.
Alors qu'est-ce qui t'a plu, on va dire, le plus, ou je sais pas, libre antenne, vas-y, dis-moi.
Moi, ce qui m'a plu le plus dans ce film, c'est le côté. J'aime beaucoup les voyages dans le temps. Et donc, le côté revoir des morceaux d'autres films, en particulier du premier Avengers, quand on voit la fameuse scène iconique, on les voit tous les uns dos à dos et la caméra qui tourne autour, ce plan qu'on a vu 1000 fois, je pense.
Ouais.
Revoir ça et voir derrière dans un coin les autres. T'as presque envie de revoir le premier film pour voir si on les voit pas derrière, tu vois ce que je veux dire ? C'est hyper bien fait.
C'est ça, d'une manière générale. Au-delà du fait de revoir ce film, c'est pour ça que je tiens pas rigueur aux incohérences de Voyage dans le temps. C'est parce que c'est un artifice d'écriture parfait pour rendre hommage à l'ensemble du MCU et te donner le plaisir de geek et de fan de revisiter toute l'histoire du MCU, pas toute, mais
Mais une bonne partie.
Et ça, c'est un truc, quand je dis le film réussit à répondre à son contrat de manière qui était impossible, mais il réussit, c'est des trucs que les gens prennent comme acquis, they take it for granted.
Oui, c'est ça.
D'ailleurs, il y a une vidéo qui vient de sortir où il y a un vidéaste sur YouTube qui explique pourquoi les gens prennent le MCU for granted. Je mettrai le lien dans les notes de l'émission et je trouve qu'il explique vachement bien tout ce que j'essaye de dire maintenant, mais... les gens le prennent comme granted et se disent « Oh bah oui, ils ont juste fait un truc de voyage dans le temps. » Mais c'est pas juste un truc de voyage dans le temps, c'est que accomplit tellement de choses, la manière dont ils le font, que c'est dans cette cinématographie que s'exprime l'intelligence et le génie des auteurs du MCU. Et donc, pour moi, le fait que, oui, il y a des incohérences de temps, c'est s'arrêter sur les détails, quoi. C'est,
Non, mais complètement. Mais vraiment, ça m'a beaucoup plu, l'idée du voyage dans le temps. Et ça fait un peu Avengers in Time, tu vois.
Ouais.
Mais c'était assez fun, l'idée du casse temporel. Je trouvais ça assez génial.
C'est en ça que l'importance de Ant-Man, parce qu'en fait, ils ont fait l'influence de Ant-Man. Ces films, c'est des films de casse.
Exactement ça.
Et donc, l'arc narratif entier de ce film, enfin la première partie, c'est un film d'Ant-Man en quelque sorte, mais avec les Avengers.
Exactement. Et j'ai beaucoup aimé l'idée de... On a droit qu'à un aller-retour, machin bidule, on est bloqué, tout ça. Mais là, on va jouer justement avec le temps. Franchement, j'ai l'impression presque de voir un Retour vers le futur version Avengers, tu sais, où quand ils sont bloqués dans le passé, ils essaient de trouver un moyen de rentrer. Ouais. Il n'y a toujours pas d'uranium, du coup, il faut trouver notre machin avec l'éclair, le machin. C'est vraiment ça, en fait, tu vois, c'est genre on est bloqué, il y a encore un moyen d'y arriver et c'est d'aller faire un nouveau casse dans le casse.
C'est ça, ouais.
J'ai trouvé ça génial.
Et comme le fait tous les films de casse, il y a un truc qui ne se passe pas bien et donc tu dois trouver une solution, c'est-à-dire qu'il te donne tout le plan. Et puis après, bien sûr, les choses ne se passent pas comme elles devraient, quoi.
Voilà, et là, ils te disent, ouais, il faut absolument qu'on... Mais attends, mais il y a un autre moment. Et comme c'est une histoire de voyage dans le temps, c'est facile de se dire, attends, mais la pierre, elle est présente à un autre moment, donc on peut aller la chercher à un autre truc, voilà. Et en fait, c'est ça qui est ultra intéressant avec ce film-là. C'est que, comme tu dis, il y a quelques... Franchement, moi, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas du tout. Ouais. Alors, je m'attendais quand même à une histoire de voyage dans le temps, ça, clairement. Pour défaire ce qui avait été fait.
Bah en fait,
mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit fait comme ça.
Il y avait deux trucs qui étaient possibles. Un, ils vont taper Thanos
récupèrent
les pierres. Et ça, j'ai adoré que dans les 15 premières minutes, c'est genre, OK, cette théorie que vous aviez, voilà, hop, terminé, 5 ans plus tard. Et ça, j'ai adoré. Et Thanos, il est mort, et tu sais, parce que même quand ils l'ont attrapé, je me suis dit, ils vont le garder. En plus, Thanos, dans les comics, il revient tout le temps. Et quand tu...
Oh non.
Quand il découpe la tête, t'es là, mais... attends, mais quoi ? Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé comme Rocket, en fait ?
Ouais,
genre,
c'est ça.
What ?
What ?
Et et l'autre théorie, bien sûr, qui était la théorie, genre, ils vont revenir dans le temps, OK, ils l'ont fait, mais ils l'ont fait d'une manière tellement différente et intéressante et intelligente que je à la limite, le fait qu'il l'ait fait... Ça, là encore, ça n'a pas énormément d'importance, c'est la manière dont ils l'ont fait. Et avec le... Pardon, j'arrête pas de t'interrompre. Mais avec le retcon, avec The Ancient One qui était à New York, parce que tu te dis forcément, mais attends, le truc à New York, ils étaient pas... Ils protégeaient pas dans le Sanctum Sanctorum pendant l'invasion, qu'est-ce qu'ils foutaient, quoi ? Pourquoi ils sont pas venus aider ?
En fait, si.
Et c'est tellement génial, c'est tellement malin.
En fait, c'est rigolo parce qu'on a vu effectivement des choses qui se passaient en même temps à New York pendant l'invasion du premier Avengers, qu'on a découvert finalement que plus tard dans les films, en se disant, mais oui, effectivement, il se passait ça à tel moment. Donc normalement, on devrait voir tel ou tel personnage. Et ben ils l'ont fait.
Ouais.
Et c'est là aussi où c'est super intelligent. Après... Dans l'ensemble, encore une fois, moi je trouvais que c'était un bon film. J'adore le MCU, donc voilà, à part 2-3 films, comme tu dis, il y a quelques films qui sont en dessous des autres, mais dans l'ensemble, c'est assez ouf. Après, il y a aussi, j'ai trouvé le nouveau Hulk spécial.
Ouais.
Spécial.
Le Smart Hulk, Professeur Hulk, ouais.
Ouais, ça m'a... poil dérangé, j'aimais bien le Hulk quand il était en Hulk un peu.
Ouais.
J'aimais bien quand il parlait pas aussi, hein, comme on le voit dans le tout premier, et d'ailleurs c'était plutôt bien. D'ailleurs, c'est assez incroyable. Là aussi, il y a un petit truc que j'ai noté, c'est que dans mes souvenirs, il parlait pas du tout dans le premier Avengers. Or là, il parle des escaliers. Et je me suis dit, tiens.
Ouais.
Alors que normalement, il se met à parler que quand Bruce est coincé dans le Hulk. Et je me suis dit, tiens, ils ont...
Il parle dans Ragnarok, il parle beaucoup.
Oui, dans Ragnarok, oui. Mais oui. C'est justement dans Ragnarok qu'il découvre qu'il parle, en fait. Enfin, alors, on découvre qu'il parle.
Je crois qu'au moins, il comprend. Peut-être qu'il dit quelques mots.
Oui, mais
mots
il me semble qu'il dit rien, parce que c'est vraiment bestial.
Ouais, je suis d'accord.
C'est bestial, et il n'y a que Natasha qui peut réussir à le faire redescendre et tout ça. Donc,
j'avoue, mais en même temps... Le fait, quand il est dans les escaliers, qu'il dit ouais. So many stairs!
C'est
tellement drôle.
C'est tellement con, ouais. Tellement con. Là, Valérie, elle m'a dit, mais il aurait pas pu sauter, tout simplement.
Bah ouais, oui, bien sûr.
Mais voilà.
Mais avec des il aurait pas pu, on fait. Enfin, il y en a toutes les deux scènes dans le MCU. Des
ah, mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est. Mais voilà. Moi, j'ai trouvé que dans l'ensemble, c'était sympa. Ouais. Il y a. Ce film-là est... C'est dommage, une des scènes de fin, pendant l'enterrement, j'ai trouvé là aussi... J'avais presque envie de pleurer. Je dis presque, mais il y a un truc qui m'a gâché l'armichette, c'est de voir la caméra qui se déplace sur tous les groupes comme ça. J'ai trouvé que c'était pas... En plus, ils sont vraiment par groupe. C'est genre, on n'est même pas ensemble. Il n'y a pas un seul plan, mais il y en a 50.
Dans les enterrements, t'es avec tes amis.
Mais je suis d'accord, mais le travelling, la façon dont le travelling est fait, je trouvais ça un peu cheap, entre nous. Hein.
Tu sais...
Il y a une petite pote de réal sur ce plan-là. Mais après, voilà, sinon, c'est le seul truc qui, du coup, m'a fait dire « Oh non, c'est con, j'aurais bien voulu pleurer, tu vois, à ce moment-là. »
Ouais. Ah putain, mais moi, j'ai... Voilà. C'est marrant parce que je vois sur Twitter mes amis américains et mes amis français. Mes amis américains disent tous « Ah, mais j'ai pleuré pendant le film. » Les Français, c'est genre « Ah oui, c'était un peu triste quand même. » Et moi, je suis à mi-chemin. J'ai pleuré.
C'est-à-dire que tu pleures d'un œil, mais pas
ouais,
de toi.
C'est ça. Mais franchement, il y a 2-3 moments où c'est difficile. À vrai dire, c'est un autre truc que j'ai aimé
c'est l'ascenseur
ça me donne
émotionnel
l'occasion.
Permanent.
Ah ouais, non mais c'est fou, les trucs...
Des moments où t'as envie de sauter sur ton fauteuil en disant « Houhou, vas-y, dis-le
ouais. !» Et il y a
le
des moments
après,
où...
Le moment d'après, tu te dis « Ah non, c'est pas possible !» Et d'autres, tu rigoles parce que... Enfin...
Le début, la scène d'intro avec Hawkeye, mais c'est une torture parce que tu sais ce qui va se passer. Et tu le vois, et c'est tellement mignon, et tu sais, il lui met la main
Valérie,
dans les cheveux et...
À Valérie, la première scène, je fais « Oh non !»
Mais exactement. Tu vois le truc arriver et tu réalises tout de suite parce que tu connais tout cet univers.
Bien sûr.
Et tu dis oh putain non.
Et voilà.
C'est tellement et il y a plein de moments hyper émouvants dans le film. Effectivement, l'ascenseur émotionnel il est permanent. C'est d'ailleurs peut-être il y a tellement de développement de personnages et d'histoires. Sans action, c'est genre 2 heures avant la première grosse vraie scène d'action
oui,
et peut-être la seule. Et je crois qu'il sera moins re-regardable peut-être que Infinity Wars parce que justement il y a moins cette action. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui aiment pas l'action justement et pour qui ça sera le contraire. Mais enfin, moi je dis ça, je l'ai vu 3 fois en 6 jours donc quand même. mais
d'ailleurs, il faut qu'il retourne demain, du coup. Il faut maintenir le rythme quand
c'est
même.
C'est ça, ouais. Mais non, mais à ce niveau-là. L'émotion est tellement forte dans ce film. Ça aussi, c'est un point qui est inattendu / réussi. C'est que moi, je ne m'attendais pas à avoir un film comme ça où ça serait le point fort du film serait l'émotion qui nous fait ressentir. Et le début, effectivement, et la fin, évidemment. Et quand Tony Stark dit... And I am Iron Man. Et tu vois, il y a. Alors là, c'est très
comme
fort.
Comme le Avenger Assemble et tout ça.
Ah, mais ça, alors attends, j'y reviendrai après parce que ça, il faut en parler 10 minutes rien que de ça, tu vois. Mais I am Iron Man, en plus, ça fait référence à la fin du premier film, ça. Et puis, il y a tout son discours, où entre parenthèses, il fait genre des hologrammes. Je verrais bien, pour ceux qui connaissent les comics, le Tony Stark AI, il pourrait le faire revenir de cette manière. Enfin, bon, bref. Mais le discours après, avec la petite. Et la scène avec tous les gens qui sont réunis, pour moi, ce que ça m'a fait ressentir, c'est justement, genre, je sais pas, la mort de Captain America dans les comics, ou la mort de Superman, on va faire un tout petit détour par le DC Comics Universe, tu vois, dans ce genre d'événement, tu as justement tous les super-héros qui sont réunis et qui viennent pour exprimer leur respect à celui qu'ils admiraient. Et ces panoramas avec tous les personnages qui sont réunis, c'est un truc qui est hyper marquant. Et là, ils l'ont reproduit un petit peu. Oui, il y a ce petit travelling que tu n'as pas aimé, mais pour moi, ça m'a marqué. Mais encore plus que ça, la scène avec Happy Hogan et la petite... Et je pense que les gens qui sont parents ont également... Il y a peut-être des gens comme moi qui sont devenus parents pendant le MCU et qui du coup regardent ces choses-là de manière très différente. Et la relation entre Tony Stark et son père qui se développe aussi dans cet épisode. Et donc la petite qui est assise avec Happy Hogan et lui dit « Ah, est-ce que t'as faim ? Qu'est-ce que tu veux ?» Elle lui dit des cheeseburgers. Et là,
tu repenses
que c'est ce que mangeait Tony dans le premier.
Bah, quand il est rentré d'Afghanistan, c'est le premier truc qu'il demande.
I want an American cheeseburger pour le partenariat commercial avec Burger King, si je ne m'abuse. Mais c'est vois, il dit... Et oui, d'ailleurs, je voulais mentionner aussi, quand les gens disent « Ah, c'est formulaïque, machin, et c'est commercial », oui, bien sûr, c'est commercial.
Mais grave, mais... quand tu vois Audi, voilà, Fortnite, c'est ça. Mais il y a un crossover Fortnite.
Boudons pas dans le plaisir. Mais oui, et il dit « Ah, le cheeseburger », et là, il est pris par l'émotion, il dit « Ah, tu sais, ton père aussi, il aimait les cheeseburgers », et elle comprend pas vraiment ce qui se passe, elle est trop petite, tu vois. Et elle dit « Ok », et il lui dit « Ah, je vais t'acheter tous les cheeseburgers que tu veux », et dit « Ok, et elle joue avec sa robe et tout. Ouais, et c'est tellement... Moi, ça m'a pris au trip, quoi, ce moment.
Mais oui, bien sûr, parce que tu te dis... Enfin, si elle savait, quoi. Mmh. Mais voilà.
Et donc, cette partie émouvante. Et la troisième chose que moi, j'ai trouvée... Enfin, je pense que personne ne peut le nier. C'est la jubilation de fans qu'on ressent à de très nombreux moments du film. Le snap de Tony, évidemment, étant l'un d'eux. Et entre parenthèses, du coup, maintenant, la seule personne en vie qui est encore là, qui a fait un snap, qui a utilisé les pierres d'infinité, c'est Hulk. Et c'est, je sais pas, enfin, tu vois, c'est dans tout l'univers du MCU, enfin, de cette réalité en tout cas, il est, tu vois, c'est un type... Il a utilisé les pierres d'infinité. C'est un truc pour
un film. Il n'a pas de film.
Ouais.
Ça va changer.
Peut-être qu'ils vont régler leur problème avec. C'est qui ? C'est Universal ? Je ne sais plus.
Je ne sais plus. Ouais.
Pour la distribution du perso, je crois qu'il y a un truc comme ça.
Ouais, mais... ouais.
Ou peut-être que ce n'est pas ça le problème et qu'ils estiment juste que Hulk tout seul, ce n'est pas intéressant. Mais bon, il y a ça. Et puis, alors, le truc. Mais je crois que c'est la plus grosse jubilation de mon histoire de geek. C'est quand Mjolnir commence à bouger que Thor est en difficulté et que Mjolnir commence à bouger. Et moi, je viens de lire la série Mighty Thor avec Jane Foster qui devient Thor, qui est pas mal du tout d'ailleurs. D'ailleurs, recommandé par le fameux Johan, encore lui.
Mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça. Je me suis dit, bon, Thor va récupérer son marteau, machin.
C'est ça. En fait, dans cette série de livres, Thor a une conscience. Et donc, je me suis dit, ah, c'est Thor qui fait truc tout seul. Et quand il blast Thanos et qu'il revient dans la main de Captain America, mais putain, c'est inexprimable. C'est inexprimable le truc que j'ai ressenti. J'ai crié comme un gamin, tu sais. Mais littéralement, j'ai fait « Wouah !» Je me suis mis à applaudir et toute la salle a applaudi. Mais c'est une satisfaction pour les fans de comics et pour les gens qui ont suivi tout le MCU qui, là encore, est un truc qui est tellement fort que ça efface tous les éventuels problèmes que tu as pu avoir
ou dans le MCU tout court.
J'imagine que tu as eu une réaction similaire.
Ah, j'ai pas sauté sur mon fauteuil, mais dans ma tête c'était comme ça, oui, effectivement. Non, mais effectivement, quand j'ai vu, j'ai fait oh. et oui, c'était, j'allais dire, inattendu. Non, mais je pense que pour les gens qui suivent pas du tout les comics, c'est inattendu de se dire, mais what ? Comment c'est possible ? Enfin, tu vois, et...
Ah, mais non, si t'as suivi l'univers des films, souviens-toi que dans Age of Ultron,
Il fait bouger.
Il fait un tout petit peu bouger. Et du coup, oui. Tu peux dire si tu veux aller chercher là.
Exactement,
exactement. Et c'est pour ça qu'après il dit I knew it. Et tu peux dire que du coup après Age of Ultron, il s'est passé tellement de choses que il est devenu vraiment worthy.
Ouais, c'est ça.
Bon, mais bon, là c'est une analyse de nerd. C'est
non, mais c'est ça en fait. C'est ça, c'est ce que je disais hier justement avec Valérie. C'est parce qu'elle me dit quand même Thor, enfin quand même le marteau machin et tout ça. Mm-hmm. Et je dis même, mais il a évolué le personnage, donc il n'y a pas de raison que
ça soit pas possible.
Surtout qu'en plus c'est un homme de vertu et de droitesse et de justesse, Captain America, tu vois. Donc voilà. D'ailleurs, je sais plus ce qu'il dit à un moment. Il y en a un qui dit, mais ça vous énerve pas qu'ils disent ça ou je sais plus quoi. Enfin,
qui disent quoi
Je sais. Il y a un passage où tu sais, il est toujours. Je me demande si c'est pas dans le passé, c'est pas l'autre.
Ah, quand il dit, I can do this all day.
Ouais, c'est ça. Fait,
I know.
Je sais.
Yeah, I know.
Il s'énerve lui-même en fait. C'est ça qui est.
Tu vois, c'est une sorte de mise en abîme du personnage par rapport au regard qu'a le spectateur sur lui.
Iron Man se fout tout le temps de sa gueule à Captain. Genre, c'est bon, toi la princesse ou le chevalier blanc, tu vois, roi de la vertu, machin. Tu vois,
mais le fait que lui...
Et là, lui-même, il se fout de lui-même.
C'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort. Et alors, le truc aussi qui est fou, c'est dans la scène d'action, qui d'ailleurs, la scène d'action, je pense, elle est super intéressante, super bien, mais en deçà de ce qu'on voit dans Infinity War, je trouve. C'est un petit peu plus fouillis, c'est un petit peu et c'est moins satisfaisant, mais bon, elle dure quand même 40 minutes, mais voilà. Mais ce qui est hyper fort, c'est que quand Captain America fait face à l'armée de Thanos et quand ils se sont battus avec les trois, ce combat est super cool, les trois, enfin Iron Man, Thor et Captain America qui vont se battre contre Thanos et ils se font battre. Et Steve Rogers se relève et il y a toute l'armée qui arrive et il y a le désespoir. Enfin, c'est vraiment, je sais même pas comment le décrire. Tu vois, il est seul face à une armée entière et qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il resserre son bouclier qui est cassé en deux en plus. Et puis il va y aller quoi. Il peut pas faire autre chose. Et en fait, la raison pour laquelle le moment où les autres appareils fonctionnent, c'est qu'on a presque oublié qu'ils avaient snappé, tu vois, qu'ils étaient tous revenus. Pas complètement, bien sûr, on le sait, mais ça a été tellement difficile ce combat qu'on n'y pense plus trop. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et tu ne sais pas que, accessoirement, Doctor Strange peut téléporter des gens d'un bout à l'autre de l'univers. Et c'est très, là encore, tu vois, si tu veux trouver des failles dans la logique du film, ça, par exemple, ça serait quand même pratique d'avoir cette possibilité. Mais parce que tu vois dans le cercle tu vois Titan. Donc, bref. Mais... t'as un petit peu oublié tout ça et quand Sam dit Hey Cap, do you read me, tu sais même pas, t'es même pas sûr que si c'est Sam et il dit It's Sam, do you read me, et puis là le truc le on your left qui est un rappel bien sûr à Captain America
de
Civil War de Winter Soldier et là t'as tout compris en un instant et il y a cette vague de encore une fois d'exaltation, de jubilation, de les voir tous apparaître avec la lenteur de Black Panther et Okoye et Shuri qui sortent premier truc. Et là tu sens l'espoir renaître en toi quoi. Et c'est tellement bien fait cette scène. Et puis quand ils sont tous sortis
et que l'autre dit, il te lâche
le Avengers Assemble qui est le premier de toute l'histoire du MCU, mais c'est tellement bien pensé, et je sais pas ce qui était prévu dès le début dans la tête de Kevin Feige qui est une sorte de messie de la pop culture et ce qu'ils ont fait au fur et à mesure, et entre parenthèses ils ont réhabilité un petit peu, je sais plus si on en parlait, mais ils ont réhabilité les moins bons films en quelque sorte un petit peu en centrant sur Avengers 2 qui est beaucoup moins bon que le 1 et Thor 2 qui est pour le coup carrément assez, j'hésite à dire mauvais, mais c'est regardable, il est moyen quoi.
Ah, je sais pas. Moi,
ouais,
je.
Tu l'aimes bien.
J'ai bien aimé cet aspect, j'allais dire pop, mais vraiment pop dans le sens pop, même musique et tout, quoi. Enfin, très années 80, 90, synthé.
Ah non, tu parles du 3, toi.
Ah, Ragnarok. Pardon, je parle de Ragnarok.
Oui, oui.
Non, le 2, oui, non, effectivement, le 2 est pas.
C'est ça, il est assez. Mais tu vois, ils y font tellement référence et il y a tellement de trucs.
Oui.
Et que tu dis, du coup, bah, t'as envie d'aller un petit peu les revoir pour voir de quoi ça parle, quoi. Mais quoi qu'il en soit, ils ont tellement bien mené le truc. Et puis ce Avengers Assemble, c'est un cri de ralliement pour. J'ai presque envie de dire pour notre génération, quoi, de fans de comics. Et c'est un moment qui est, j'hésite pas à le dire, qui va rester inoubliable dans ma vie. Et
ouais,
je reviens à ce que je disais au début.
Comme ça, mais oui.
Mais ce que je disais au début, qu'on a vécu un truc qui va rester pour toujours, et on l'a vécu, et on aura toujours cette série de 22 films, quoi qu'il se passe à l'avenir, ce moment où il dit Avengers Assemble, je crois que je vais jamais l'oublier. C'est un moment important pour moi dans ma vie, dans la pop culture, tu vois, gardons le contexte.
Ouais, mais, bien sûr.
Mais c'est un truc qui me marque profondément, quoi.
Ah oui, carrément.
Ouais.
Toi, tu. Patrick, ça reste du cinéma quand même.
Mais tu sais, et là je te dirais non, c'est pas que
non,
du cinéma, parce que. Parce que ce que c'est, et c'est peut-être très spécifique à moi, ce que c'est ce que j'étais quand j'avais 12 ans et que je lisais ces comics dans ma chambre,
oui, bien sûr,
et que
bien
j'étais
bien.
Un petit geek tout pourri qui n'était pas populaire avec les filles et qui avait des sortes de fantasmes irréalisables sur ces super-héros et qui a vu ce dont on parle depuis des années déjà, cette culture qui est notre culture, envahir le monde et se voir affirmer, tu vois, c'est une affirmation de ce que j'étais. Et t'es peut-être un petit peu plus jeune que moi, Cédric, donc t'es moins...
Ouais, pas beaucoup.
Pas beaucoup, mais moi, tu vois, j'ai lu Infinity War quand il est sorti.
Mais
quand il est sorti
aussi.
Dans les années 80, ouais, bah toi aussi, ouais. Mais donc tu vois ça. Ouais. Pour moi, c'est plus que juste du cinéma. C'est
ah non, bien sûr que oui.
Il y a un aspect personnel et culturel plus profond, quoi.
Bien sûr, je partage tout à fait ton avis. Et d'ailleurs, de ma condition de geek au collège et tout ça, j'en ai même souffert. Donc c'est un peu une revanche sur les gens qui se moquaient de moi. Et c'est ce que disait. Je crois que c'est Todd McFarlane qui disait ça. Il disait aujourd'hui, on tient notre revanche sur les gens qui se moquaient de nous et tout ça, et on va faire quelque chose de bien, on va aller prendre leur argent. Et c'est ça en fait. Il disait vraiment ça, c'est genre on a notre revanche et on a notre, on va prendre leur argent et ils vont même pas se rendre compte qu'en fait c'est eux qui vont faire notre fortune et qui vont faire que l'on va on va devenir riche et tout ça machin. Parce qu'il est marrant, après Todd McFarlane est assez revanchard sur.
Ouais,
sur
il
ça,
est très, il est un petit peu aigri, on va dire.
Il est un peu aigri, mais en même temps c'est un peu ça. C'est un peu, moi je vois aujourd'hui dans les salles de cinéma des gens qui étaient sans doute, merci. What the Foxy, on a eu une alerte de suivi sur la chaîne en direct. Pour te dire, c'est des gens qui auraient pu me harceler quand j'étais au collège ou au lycée, tu vois.
Ouais.
Donc, et qui aujourd'hui sont dans la salle avec moi, j'exagère, mais c'est ça. Ouais, et qui partagent ce pourquoi ils se moquaient de moi à l'époque. Il y a une espèce de petite revanche. Satisfaction de se dire, ben voilà, vous vous moquiez de moi parce que j'aimais les super-héros, les machins et tout ça, tous les univers fantastiques et tout. Et aujourd'hui, vous attendez les épisodes de Game of Thrones, vous êtes à fond sur les films Marvel et tous les films de super-héros. Voilà.
Et vous avez donné 1,2 milliard de dollars en 5 jours à Disney, malheureusement. Quand tu dis, on va leur prendre leur argent, je suis pas convaincu que tu vois, j'ai pas d'action Disney.
C'est ce que Todd McFarlane disait.
Ouais, ouais, ouais. Mais ça s'applique moins à nous, on va dire, un peu moins.
Voilà, ça s'applique beaucoup moins à nous, évidemment. Mais bon, voilà.
Ouais. Donc, je crois qu'on a à peu près tout couvert. Ça fait presque une heure qu'on parle. On a dit beaucoup, beaucoup de choses. J'espère que mon enthousiasme et mon...
Non, le film est génial.
Mon plaisir.
Ouais. C'est un très bon film.
Et j'espère que, avec mes explications, certains d'entre vous qui peut-être, justement, quand on disait, boudent un petit peu leur plaisir, parfois, pour ce genre de choses, vont peut-être réussir à se laisser un peu plus aller et à apprécier la chance qu'on a d'avoir ce type d'occasion, parce que je crois que le monde est souvent un petit peu sombre, et ça, c'est un peu d'escapism qui a sa valeur aussi, et vont réussir à justement ne pas bouder leur plaisir un petit peu plus de temps en temps.
Ouais, et puis allez-y, en plus, si vous aimez ce genre de film, franchement, c'est pas mal. Et surtout, ça va donner... tu le vois d'ailleurs à la fin, hein, on devine un petit peu la suite, parce que évidemment, ne vous inquiétez pas, ils vont continuer à faire des films, hein, mais on devine maintenant une nouvelle génération de super-héros, un nouvel univers, et on repart pas de zéro, mais presque, on a conclu un chapitre, et il sera peut-être même pas nécessaire d'avoir vu cette conclusion pour enchaîner avec le suivant, mais c'est toujours bien de savoir, savoir d'où on vient et comment les choses sont construites, mais voilà.
Il y a tellement de possibilités. On n'a pas parlé du trajet de Cap et qui est... Enfin, sa conclusion aussi, ça fait un cercle. D'ailleurs, ma femme, encore elle, disait c'est limite, ça aurait été pas mal d'avoir la fin du film quand Captain America dit « I don't think I will » et qu'il regarde dans le... Et avoir la danse en post-générique. Je suis d'accord, mais en même temps, j'aime bien le fait que ça soit le film où il n'y a pas de post-générique, même s'il y a. Alors, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, t'es resté jusqu'au bout ou pas ?
Je suis resté, j'ai vu toutes les signatures, les machins, les trucs.
Ah non, mais t'es pas resté jusqu'au bout, il n'y a pas de post-générique. Mais le truc qu'il y a, c'est que quand le logo Marvel apparaît, il y a un son de marteau qui tape sur du métal. Et la plupart des gens, et pareil, c'est l'idée que j'avais eue en l'entendant la première fois, pensent que c'est le son de Tony Stark qui tape sur du métal dans sa cave pour faire son armure. Et bon, c'est une sorte d'hommage, il ne faut pas forcément y voir grand chose d'autre, mais oui, les possibilités. Alors, il va y avoir sur Disney+, la chaîne de Disney, une série WandaVision, comme tu l'as dit, une série Hawkeye, une série Loki, et une série Falcon et Winter Soldier.
Oui.
Qui, du coup,
ils vont. Quand on voit la fin, voilà.
Voilà, Falcon va devenir en quelque sorte Captain America, et dans les comics, Falcon est Captain America pendant un moment. Avant ça, Winter Soldier est Captain America, Bucky Barnes. Et d'ailleurs, j'ai adoré la scène où Steve et Bucky se disent au revoir quand il va partir dans le truc de temps, parce que tu comprends pas trop la première fois. Parce qu'ils se disent vraiment au revoir, c'est pas juste tu reviens dans 5 secondes, ils se disent au revoir, il y a ce rappel avec You're taking all the stupid with you, et ils se disent au revoir, et en fait Bucky a compris ce qui va se passer, et c'est
son pote de toujours,
il sait ce qu'il va faire, et ça aussi c'est hyper émouvant, et du coup, bref on pourrait repartir et en reparler pendant encore une heure. Un truc que tu veux dire en conclusion peut-être?
Non, allez le voir au cinéma, de préférence, parce que c'est tellement épique, il y a des scènes qui sont tellement épiques que je pense qu'à la télévision chez vous, ça ne rendra pas bien.
Même avec un écran 4K géant.
Même avec un écran 8K de 116 pouces. Remarque peut-être si.
Ouais.
Avec un écran 8K de 116 pouces avec un son
Dolby
Atmos et un truc qui fait vibrer le canapé, là vous pouvez le regarder chez vous. Sinon, allez au cinéma.
C'est pour ça que je suis allé au cinéma 3 fois, c'est parce que je me dis, ce truc... Je ne vais pas pouvoir le revoir au cinéma. Il y aura certainement des rétrospectives
peut-être
genre dans 10 ans.
Peut-être avec un casque VR, tu vois, avec un casque VR de bonne qualité. Tu as la sensation d'être dans le cinéma, tu as le film que pour toi, je ne sais pas.
Mais
tu l'as vu en 3D ou en 2D?
Alors, une fois en 3D et deux fois en 2D. Et
moi, j'ai vu en 2D.
Ouais, en 3D, c'était comme toujours un peu sombre. Et dans la scène de bataille finale, c'était un peu gênant.
Je vois rien du tout, ouais.
Mais le plaisir d'être dans la salle, la deuxième fois en particulier, parce que je crois que la troisième fois, la plupart des gens le voyaient pour la deuxième fois, donc ils s'attendaient à ce qui allait se passer, mais être dans la salle la deuxième fois et écouter les réactions du public quand il y avait ces moments dont tu savais qu'ils allaient arriver, c'était un plaisir ajouté encore, tu sais, écouter les gens hurler de joie quand Cap attrape Mjolnir ou tu vois, retenir leur respiration quand il y a des trucs émouvants qui se passent.
Limite, tu regardes la salle et pas le film, tu sais. Alors
Presque. et voir, enfin, je sais pas, Pepper Potts arriver avec son armure aussi, c'était une exaltation. Enfin bon, bref, c'était un grand moment pour moi, vous l'aurez compris.
Puis quand Tony dit, tu sais, j'offre des cadeaux à ta mère, l'utilise jamais.
Ouais.
Voilà.
Et enfin, pff, oh là là. Et oui, les Young Avengers qui pourraient sortir de tout c'est ça. Sûr. Avec d'ailleurs, dans la scène de l'enterrement de Tony, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a un jeune.
Il y a le gamin. Oui, oui. Et en fait, c'est voilà. Celui du Iron Man ou pas ?
C'est celui de Iron Man 3, exactement.
Ah, mais je ne savais pas si c'était celui d'Iron Man 3 ou pas. Je ne reconnaissais pas du tout.
Eh bien, moi, je ne l'ai pas du tout reconnu non plus, mais je me suis dit, ça ouais, peut voilà. Être que lui. Et, oui, oui. Et c'était bien lui, t'avais raison.
Oh, okay, ok.
Donc.
Non, parce que tu vois, quand on est sorti du cinéma, justement, on se posait la question, mais qui c'est ? Et ce matin, j'ai repensé, je me suis dit, mais qui c'était ce gamin ? Et je me suis dit, mais est-ce que c'est lui ? Mais alors, c'est vrai que c'est vrai qu'il s'est écoulé du temps. Il y a eu les 5 ans du truc, plus tous les films entrent. Donc, effectivement, il a sans doute grandi, quoi.
Ouais, oui, exactement. Ah, ou alors, juste tous les films entrent, s'il est pas, il a été oui, snappé oui. Ou pas, ça dépend. Ouais.
Et on ne sait pas.
Et bon, donc, il va y avoir l'épilogue avec Spider-Man Far From Home, dont j'ai d'ailleurs pas vu quoi que ce soit, donc je suis excité de...
Ah oui, non.
Bon, c'est l'épilogue, je pense qu'ils vont juste dire une ou deux phrases sur genre, la moitié qui a pas été snappée, maintenant, comment ils gèrent ceux qui ont été snappés, et comment le monde, machin, et bon.
Ouais, bref, mais...
Donc
la chatroom nous dit, moi, dans la suite... Les deux seuls films qui me font envie, c'est Guardians of the Galaxy 3 et le film sur Black Widow.
Alors, Black Widow, là encore, on ne sait pas ce qui va se passer parce que si ça se trouve, ça va être la fameuse histoire de Budapest. Mais est-ce que ça pourrait être autre chose ? Est-ce que ça pourrait ne pas être dans le passé ? Est-ce que Black Widow est vraiment morte ? Est-ce que Hulk n'a pas réussi à la ramener ? Pas parce que elle doit rester morte, mais parce qu'en fait elle est pas morte et elle est coincée dans Soul World avec Gamora et elle va pouvoir en sortir à un moment.
Peut-être.
Mais
la suite au prochain épisode.
C'est plein de mais là la fin est satisfaisante et l'idée qu'il y a plein de gens qui disent ah oui mais il y a pas de conséquences dans ces films et ils vont tous revenir machin.
La Galaxie 3 est-ce que Thor est avec eux enfin.
Bah ils peuvent au début du film dire ah Thor on l'a laissé.
Mais le film est pas déjà tourné enfin.
Non pas du tout il est écrit.
Ah, il est écrit. Je pensais qu'il était déjà rentré en production.
Non,
et tout,
il est écrit et ils veulent utiliser le script de James Gunn. C'est James Gunn.
Oui.
Et c'est d'ailleurs sans doute à moitié pour ça qu'ils l'ont récupéré pour réaliser le film, quoi. Donc, mais bon, tu sais, tu peux rajouter Thor. Je pense que James Gunn n'aura pas du tout de mal à rajouter Thor s'il n'était pas prévu à la base, quoi.
Ouais, non, bien sûr.
Mais bon. Okay. Donc, il y a plein de choses.
Une sacrée équipe d'abrutis, quoi.
Excitante à voir. Et même s'ils retconnent des trucs, et même s'il y a des trucs qui changent, et même s'ils ramènent des gens, c'est pas grave. L'émotion qu'on ressent aujourd'hui reste importante et reste réelle.
Oui, non, c'est bien. Ouais, franchement. Ouais. Donc, allez le voir.
Donc, ma conclusion sera comme la tienne. Allez le voir. Allez le voir. Et si vous l'avez déjà vu une fois, allez le voir une deuxième fois pour donner de l'argent à Disney et pour voir ça. Les réactions des gens dans le ciné. Il y a une expérience collective qui est intéressante. Et puis, surtout, prenez du plaisir. Prenez du plaisir et ne boudez pas votre plaisir. C'est quelque chose de trop rare dans ce monde pour qu'on s'impose d'être cynique, même dans un univers coloré et pop culture de comics comme celui-là. Donc voilà, j'espère que beaucoup d'entre vous auront pris autant de plaisir que moi. Et on se retrouvera pour un positron dans quelques temps, j'en suis sûr. Peut-être que pour les films Marvel, ça deviendra une tradition. Du coup, on verra.
C'est ça. Ce sera des épisodes spéciaux.
C'est ça. Merci Cédric. Est-ce que tu veux dire aux
Merci
auditeurs qui t'écoutent en podcast où ils peuvent te retrouver ?
Bien sûr, sur studiorenegade.fr ou sur la chaîne Twitch éponyme Studio Renegade. Voilà, donc là on est en direct, donc les gens doivent se dire mais qu'est-ce qu'il raconte ? Mais oui, effectivement, vous pouvez me retrouver ici. Donc voilà, avec différentes émissions, y compris sur la pop culture, mais sur le high-tech et tout ça. Quoi. Voilà.
Vous pouvez me retrouver et vous aurez le lien vers le compte Twitter de Cédric dans les notes de l'émission. Vous pouvez, moi, me retrouver sur Twitter, Facebook et Instagram sous le pseudonyme NotePatrick. C'est très facile à retenir. Et vous pouvez aussi, je vais exceptionnellement mettre un article sur le blog sur le site sur lequel je mets les productions podcastiques que je fais pour cet épisode. Généralement, pour Positron, je ne le fais pas. Mais je vais le faire cette fois-ci. Comme ça, vous pourrez venir laisser vos commentaires et je j'ai très hâte de lire ce que vous avez pensé de, du film, bien sûr, et de notre, nos impressions et de mon enthousiasme qui est peut-être un petit peu ridicule pour certains, j'en conviens. Donc vous pouvez aller sur frenchspin.fr et le lien est disponible dans les notes de l'émission, sur frenchspin.fr pour nous donner tous vos commentaires. Et bien sûr, le rendez-vous tech pour les news tech, le rendez-vous jeu pour les news gaming et Positron pour les conseils de trucs cool, de produits culturels cool. On vous remercie d'avoir passé cette heure avec nous. On vous fait de grosses, grosses bises et on vous donne rendez-vous très, très vite pour de nouvelles aventures incroyables. Ciao à tous. Ciao, ciao. You're a stump, 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 you're a stump,